La révérende mère Gaius Hélène Mohayam, assise dans un fauteuil de tapisserie, regardait approcher la mère et le fils. De part et d'autre, les fenêtres ouvraient sur la courbe de la rivière qui coulait vers le sud et sur les terres verdoyantes des Atréides. Mais la révérende mère était indifférente à ce paysage. Ce matin, elle ressentait son âge. Elle en rendait responsable ce voyage dans l'espace, cette association avec l'abominable guilde spatiale aux menées obscures. Mais cette mission requérait l'intervention d'une Bene Gesserit avec le regard. Et la diseuse de vérité de l'empereur Padishah elle-même ne pouvait se soustraire à son devoir. « Maudite soit cette Jessica !» songea la révérende mère. « Si seulement elle nous avait donné une fille ainsi qu'il lui avait été ordonné !» À trois pas du fauteuil, Jessica s'arrêta. Elle esquissa une brève révérence tout en pinçant légèrement sa jupe de la main gauche. Paul s'inclina rapidement, ainsi que le lui avait enseigné son maître à danser pour les circonstances où l'on pouvait douter du rang de la personne. Les nuances de l'attitude de Paul ne passèrent pas inaperçues de la révérende mère.
« Il est prudent, Jessica, » dit-elle.
Jessica posa la main sur l'épaule de son fils, la serra. Le temps d'un battement de cœur, la peur irradia de sa paume, puis elle se maîtrisa une fois encore et répondit « Ainsi a-t-il été éduqué, votre révérence ?»«
Que craint-elle ?» se demanda Paul.
La vieille femme l'étudiait, tout entier, en un seul regard. Il avait le visage ovale de sa mère, avec une ossature plus forte. Ses cheveux étaient noirs, très noirs, comme ceux du duc, son père. Ses sourcils étaient ceux de ce grand-père du côté maternel dont on ne pouvait dire le nom. Il avait un nez fin, plein de dédain, et ses yeux verts avaient le regard direct du vieux duc, son grand-père paternel qui était mort. Voilà bien un homme qui appréciait la puissance du geste, même dans la mort, songea la révérende mère.
L'éducation est une chose, dit-elle. L'ingrédient de base en est une autre. Mais nous verrons.
Les yeux anciens eurent un regard acéré à l'adresse de Jessica.
Laisse-nous. Je t'enjoins de pratiquer la méditation de paix.
Jessica retira sa main de l'épaule de son fils.
Votre révérence, je...
Jessica, tu sais bien que cela doit être fait.
Intrigué, Paul regarda sa mère. Elle se raidit.
Oui, bien sûr.
Il se tourna vers la révérende mère. La déférence de Jessica et sa crainte visible commandaient la méfiance. Pourtant, il ressentait une certaine appréhension devant la peur qui irradiait de sa mère.
Paul.
Jessica prit une inspiration profonde.
Cette épreuve à laquelle tu vas être soumis, elle est importante pour moi.
Une épreuve?
Souviens-toi que tu es le fils d'un duc,
dit encore Jessica. Puis elle fit demi-tour et quitta le salon dans le froissement léger de sa robe. La porte se referma derrière elle. Paul regarda la vieille femme tout en contenant sa colère.
Depuis quand congédie-t-on Dame Jessica comme une servante?
Demanda-t-il. Un sourire vint jouer aux commissures des lèvres anciennes.
« Dame Jessica, mon garçon, fut ma servante durant 14 années d'école. »
La révérende mère hocha la tête.
« Et une bonne servante, je dois le dire. Maintenant, approche. »
L'ordre fut comme un coup de fouet. Paul obéit avant de réfléchir. Puis il se dit « Elle s'est servie de la voix contre moi. » Sur un geste, il s'arrêta, près de ses genoux.
« Tu vois cela ?»
demanda-t-elle. Des plis de sa robe, elle sortit un cube de métal vert qui avait environ 15 centimètres d'arête. Elle l'éleva, le fit pivoter, et Paul vit que l'une des faces était creuse, obscure, étrangement effrayante, impénétrable à la lumière.
« Mets ta main droite dans cette boîte !»
dit la révérende mère. La peur fusa en lui. Il recula. Mais la vieille femme reprit.
« Est-ce ainsi que tu obéis à ta mère ?»
Il affronta le regard de ses yeux d'oiseau brillant. Lentement, conscient de toutes les contraintes qu'il ne pouvait repousser, il mit la main dans le cube. Tout d'abord, à l'instant où l'obscurité se refermait sur ses doigts, il éprouva une sensation de froid. Puis il sentit le contact du métal doux et un picotement envahit sa main, comme si elle était endormie. Les traits de la vieille femme devinrent ceux d'un animal de proie. Elle éloigna sa main droite du cube et, lentement, la posa près du cou de Paul. Il devina alors un scintillement métallique et voulut tourner la tête. « Arrête !» La voix. Encore. Il regarda son visage.
« Je tiens le Gomjabar près de ton cou. Le Gomjabar, l'ennemi suprême. Une aiguille avec une goutte de poison à son extrémité. Ah, surtout, ne bouge pas, ou tu pourrais goûter de ce poison. »
Il lutta pour déglutir. Sa gorge était sèche. Il ne parvenait pas à détacher son regard de ce visage ancien, usé, de ses yeux luisants, de ses dents d'argent, qui scintillaient à chaque mot dans les gencives pâles.
« Un fils de duc se doit de connaître les poisons. Ainsi le veut notre époque, n'est-ce pas ? Le musky que l'on met dans ton verre, l'omasse que l'on glisse dans ta nourriture, les poisons lents, les foudroyants et les autres, et le gomjabar que j'ai ici. Lui, il ne tue que les animaux. »
L'orgueil domina la peur. « Osez-vous insinuer qu'un fils de duc est un animal ?
Disons que je pense que tu peux être humain. Attention, ne fais plus un mouvement. Je suis vieille, mais ma main plongerait cette aiguille dans ton cou avant que tu puisses te dérober.
Qui êtes-vous? Comment avez-vous pu obliger ma mère à me laisser seule avec vous? Êtes-vous une Harkonnen?
Une Harkonnen? Ciel, non. Mais à présent, silence.
Un doigt sec sur son cou. Il maîtrisa l'impulsion de fuite.
C'est bien. Tu as passé la première épreuve. À présent, voici ce qui va suivre. Si tu retires la main de cette boîte, tu meurs. Telle est l'unique règle. Laisse ta main dans cette boîte et tu vis. Ôte-la et tu meurs.
Il respira profondément pour réprimer un tremblement. « Si j'appelle, dit-il, nos gens seront là en un instant et c'est vous qui mourrez.
Tes serviteurs n'iront pas plus loin que ta mère qui veille à cette porte. Elle a déjà survécu à cette épreuve. Maintenant, ton tour est venu. » Sois-en fier. Il est rare que nous soumettions des enfants mâles à cette épreuve.
La curiosité vint atténuer la peur jusqu'à la rendre supportable. Paul avait perçu la vérité dans la voix de la vieille femme. Il ne pouvait nier ses paroles. Si vraiment sa mère veillait là dehors, si vraiment il s'agissait d'une épreuve, quelle qu'elle fût, il savait qu'il ne pouvait y échapper. Il était prisonnier de cette main près de son cou. Du Gomjabar. Il se souvint des paroles de la litanie contre la peur du rituel Bene Gesserit, tel que sa mère les lui avait enseignées. Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien. Rien que moi. Il sentit son calme revenir. « Finissons-en, vieille femme, » dit-il.
« Vieille femme ?»
elle avait crié.
« Tu as du courage, on ne peut en douter. Eh bien, nous allons voir cela, mon petit ami. »
Elle se pencha tout contre lui et sa voix devint un murmure.
Tu vas sentir la douleur dans cette main qui est dans la boîte. La souffrance. Mais ôte seulement ta main et mon Gomjabar touchera ton cou. Et la mort sera aussi rapide que la hache du bourreau. Ôte seulement ta main et mon Gomjabar t'ôte l'existence. Compris?
Qu'y a-t-il dans cette boîte?
La souffrance.
Dans sa main, le picotement se fit plus net. Il serra les lèvres. Quelle épreuve est-ce donc là ? Se demanda-t-il. Le picotement se fit démangeaison.
As-tu déjà entendu parler de ces animaux qui se dévorent une patte pour échapper à un piège ? C'est là une astuce animale, Un humain, lui, demeurera pris au piège. Il supportera la souffrance et feindra d'être mort afin de pouvoir tuer le trappeur et supprimer ainsi la menace qu'il représente pour l'espèce tout entière.
La démangeaison devint une brûlure très légère.
« Pourquoi ?» demanda Paul.
« Pour déterminer si tu es vraiment un humain.
Silence !»
La brûlure se fit plus intense dans sa main droite. Il referma sa main gauche.
Lentement, lentement, la douleur augmentait.
Chaleur, chaleur, toujours plus de chaleur.
Les ongles de sa main libre s'enfoncèrent dans sa paume.
Les doigts de sa main en feu ne lui obéissaient plus.
« Ça brûle !»
dit-il.
« Silence !»
La douleur s'élança dans son bras. La sueur perla sur son front. Chaque fibre de son corps lui commandait de retirer sa main de ce puits de feu. Mais le Gom Jabbar était là. Sans tourner la tête, Paul devinait la terrible aiguille qui veillait près de son cou. Il se rendit compte qu'il respirait convulsivement et tenta de se maîtriser, mais sans y parvenir.
Souffrance. Le monde devint vide. Il n'y eut plus que sa main, seule, noyée dans la souffrance, et ce visage ancien à quelques centimètres.
Ses lèvres étaient sèches, soudées.
Brûlure, brûlure.
Il avait l'impression de sentir sa peau se craqueler, sa chair griller jusqu'à laisser apparaître les os.
Puis, plus rien.
La souffrance avait cessé, comme si l'on avait appuyé sur un bouton. Il vit que son bras droit tremblait convulsivement, et la sueur continuait de ruisseler par tout son corps.
« Ça suffit !» dit la vieille femme. « Kul wahad ! Jamais nul enfant né d'une femme n'a enduré autant. C'est comme si j'avais voulu te voir échouer. »
Elle se recula, éloigna le Gom Jabbar de son cou.
« Ôte ta main de cette boîte, jeune humain, et regarde-la. »
Il lutta pour réprimer un frisson douloureux, et ses yeux se fixèrent sur le trou obscur où sa main était encore plongée, comme si elle se refusait à tout mouvement, comme si le souvenir de la souffrance la paralysait. Toute sa raison soufflait à Paul qu'il allait retirer un moignon noirci de cette boîte.
« Ôte-la !»
Il obéit. Il regarda sa main, stupéfait. Il ne vit pas une marque, pas la moindre trace de la douleur qu'avait éprouvée sa chair. Il éleva sa main devant lui, la fit tourner, plia les doigts.
« Douleur par induction nerveuse, » dit la vieille femme. « Elle ne peut venir à bout des humains potentiels. Certains donneraient gros pour connaître le secret de cette boîte. »
Elle prit le cube de métal et l'enfouit dans les plis de sa robe.
« Mais cette douleur, » dit Paul.
« Cette douleur ? Un humain est capable de dominer chacun des nerfs de son corps. »
Il eut mal à la main gauche, ouvrit ses doigts et découvrit 4 marques sanglantes sur sa paume. Il laissa retomber son bras et regarda la vieille femme.
« Vous avez déjà fait cela, ma mère ?
As-tu jamais tamisé du sable ?»
La question était tangente et mordante. Son esprit gagna un niveau supérieur d'appréhension.
« Tamiser le sable ?»
Il acquiesça.
« Nous, Béné Gesserit, « tamisons les gens pour découvrir les humains, » dit la vieille femme.
Il éleva alors sa main droite devant ses yeux, essayant de retrouver le souvenir de la souffrance.
« Et c'est tout ? De la souffrance ? C'est tout ?
Je t'ai observé, mon garçon. La souffrance n'est que l'axe de l'épreuve. Ta mère t'a enseigné la façon dont nous observons. J'ai vu les signes de cet enseignement en toi. C'est là toute notre épreuve. Crise et observation. »
Sa voix même portait la confirmation de ses paroles, et Paul dit « C'est vrai. » Elle le regarda. Il perçoit la vérité. Se pourrait-il qu'il soit celui-là, vraiment ? Puis elle songea. L'espérance ternit l'observation. Et elle étouffa l'excitation qu'elle ressentait.
« Tu sais lorsque les gens croient ce qu'ils disent ?»«
Je le sais. »
Dans la voix de Paul, il y avait les harmoniques de ses capacités. Elle les perçut et dit
« Peut-être es-tu le Kwisatz Haderach ? Assieds-toi, petit frère, là, à mes pieds.
Je préfère demeurer debout.
Ta mère s'est assise là autrefois.
Je ne suis pas ma mère.
Tu me détestes un peu, n'est-ce pas ?
Elle regarda vers la porte et appela.
Jessica !
La porte s'ouvrit. Jessica apparut sur le seuil. Le regard de ses yeux était dur. Il s'attendrit en voyant Paul. Elle parvint à sourire faiblement.
« Jessica, as-tu jamais cessé de me haïr ?»
demanda la vieille femme.
« Je vous aime et vous déteste tout à la fois, »
dit Jessica.
« Je vous déteste pour cette souffrance que je ne pourrai jamais oublier. Je vous aime pour... »«
Le plus important seulement, »
dit la vieille femme, et sa voix était douce.
« Tu peux venir à présent, mais garde le silence. Ferme cette porte et veille à ce que nul ne vienne nous interrompre. »
Jessica s'avança, referma la porte et s'appuya au battant. « Mon fils vit, » pensa-t-elle. « Il vit et il est humain. » Je le savais, mais il vit et il peut vivre désormais. Le contact de la porte était dur, réel contre son dos. Tout dans cette pièce semblait peser sur ses sens. « Mon fils vit. » Paul regardait sa mère. Elle a dit vrai. Il aurait voulu être seul pour repenser à cette expérience, mais il savait que ce ne serait pas possible avant qu'on lui eût donné congé. La vieille femme avait acquis un empire sur lui. Elle avait dit vrai. Et sa mère avait subi cette même épreuve. Le but devait en être terrible pour justifier une telle souffrance, une telle peur. Et il savait qu'il était terrible, qu'il défiait toute probabilité et n'existait que pour lui-même. Il savait que d'ores et déjà, il en était prisonnier. Mais il ignorait tout de la nature de ce terrible but.
« Un jour, mon garçon, » dit la vieille femme, « toi aussi tu te tiendras devant une porte. C'est là une toute autre épreuve. »
Il contempla sa main qui avait traversé la souffrance, regarda la révérende mère. Il venait de déceler dans sa voix quelque chose d'inconnu. C'était comme si les mots avaient été scintillants, pleinement détachés, définis. Et il savait que chaque question qu'il pourrait désormais poser amènerait une réponse qui l'élèverait hors de son monde de chair, vers quelque chose de plus grand.
« Pourquoi cherchez-vous les humains ? »
demanda-t-il.
« Pour te libérer. »«
Me libérer ?»
Les hommes ont autrefois confié la pensée aux machines dans l'espoir de se libérer ainsi. Mais cela permit seulement à d'autres hommes de les réduire en esclavage, avec l'aide des machines.
« Tu ne feras point de machine à l'esprit de l'homme semblable, » cita Paul.
« Oui, c'est ce que disent le djihad butlérien et la Bible catholique orange. Mais l'un comme l'autre devrait dire en vérité, tu ne feras point de machine qui contrefasse l'esprit humain. As-tu étudié le mentat de votre maison ?
J'ai étudié avec Tufir Hawat.
La grande révolte nous a débarrassés de nos béquilles en obligeant l'esprit humain à se développer. On créa alors des écoles afin d'accroître les talents humains.
Les écoles Bene Gesserit ?
Elle acquiesça.
Deux grandes écoles ont survécu. Bene Gesserit et la Guilde Spatiale. La Guilde, c'est du moins ce que nous pensons, incline plutôt à développer les mathématiques pures. La fonction du Bene Gesserit est tout autre.
La politique, lança Paul.
Kul Wahad,
s'exclama la révérende mère. Et elle se tourna vers Jessica avec un regard dur.
Je ne lui ai rien dit, votre révérence,
fit la mère de Paul. La vieille femme reporta alors son attention sur le garçon.
Tu as déduit cela à partir de bien peu. Mais il est exact qu'il s'agit de la politique. À l'origine, l'école Bene Gesserit était dirigée par ceux qui estimaient nécessaire l'existence d'un lien de continuité dans les affaires humaines. Ils virent que cette continuité ne pouvait exister sans que l'on séparât l'humain de l'animal, dans le but de faciliter la sélection.
Abruptement, pour Paul, les paroles de la révérende mère perdirent cette netteté qu'elles avaient eue jusqu'alors. C'était comme si l'on s'attaquait soudain à ce que sa mère appelait son instinct de rectitude. Non pas que la révérende mère lui mentît, il était évident qu'elle était sincère, mais plus profondément, il avait décelé quelque chose. Quelque chose qui était lié au but terrible de l'épreuve. Mais ma mère m'a appris que nombre de Béné Gessérit de l'école ignorent tout de leur lignée, dit-il.
Nous détenons tout l'historique génétique. Ta mère sait ainsi qu'elle est de descendance Béné Gessérit ou que sa lignée, du moins, a été jugée acceptable.
Alors pourquoi ignore-t-elle qui étaient ses parents?
Certains le savent, d'autres l'ignorent. Il se peut, par exemple, que nous souhaitions un accouplement avec un proche parent afin de rendre dominantes quelques caractéristiques génétiques. Nos raisons sont multiples.
À nouveau, il perçut l'offense à son instinct de rectitude. « Vous décidez beaucoup par vous-même, » dit-il. La révérende mère le regarda en silence, songeant « Est-ce bien une critique que j'ai perçue dans ses paroles ?»«
Notre fardeau est lourd, » dit-elle.
Les effets de l'épreuve s'estompaient de plus en plus rapidement. Il affronta calmement le regard ancien. Vous dites que je suis peut-être le Kwisatz Haderach? Qu'est-ce donc là? Un Gomjabar humain?
Paul,
intervint sa mère.
Tu ne dois pas employer ce ton avec...
Laisse, Jessica, dit la révérende mère.
Mon garçon, connais-tu la drogue de la diseuse de vérité?
C'est ce que vous prenez afin de mieux déceler ce qui est faux. Ma mère me l'a appris.
Et as-tu jamais assisté à la transe de vérité?
Il secoua la tête.
Non. La drogue est dangereuse, mais elle donne un pouvoir véritable. Par elle, une diseuse de vérité peut visiter bien des lieux dans sa mémoire, dans la mémoire de son corps. Elle peut se pencher sur maintes avenues du passé, mais seulement sur des avenues féminines.
La voix de la vieille femme se chargea d'une note de tristesse.
Pourtant, il est un lieu que nulle diseuse ne peut visiter. Un lieu qui nous repousse, nous terrifie. Mais il est dit qu'un homme viendra un jour qui, avec la grâce de la drogue, verra avec son œil intérieur, qu'il verra, comme aucune d'entre nous n'a pu le faire, dans tous les passés, masculin et féminin.
Votre Kwisatz Haderach?
Oui. Celui qui peut être en plusieurs endroits en même temps. Le Kwisatz Haderach. Bien des hommes ont essayé la drogue. Bien des hommes. Aucun n'a jamais réussi.
Ils ont essayé et ils ont échoué? Tous?
Oh non!
Elle secoua la tête.
Ils ont essayé et ils sont morts.